Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière, Julien Cellier.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christelle.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est parti pour RTL Midi, une heure et demie d'infos interactives avec vous, bien entendu, vos témoignages, vos avis au 32-10. À la une, de l'argent jeté par les fenêtres. La Cour des comptes distribue les cartons rouges, elle dévoile aujourd'hui son rapport annuel et fustige notamment l'abandon de l'écotaxe, 1 milliard d'euros d'indemnisation et un manque à gagner de 10 milliards sur 10 ans. Les sommes sont affolantes. Autre point noir dans ce rapport de 1300 pages, les aides aux buralistes. Des buralistes en colère contre la hausse des prix du tabac, la contrebande, le paquet neutre. Et pourtant, d'après le rapport, leurs revenus augmentent. Pour y voir plus clair sur ce gaspillage des ressources de l'État, nous recevrons à 12h50 Didier Migaud, le premier président de cette Cour des comptes.
Les éleveurs durement touchés par la crise. Le nombre de défaillances d'exploitation a bondi de 83% l'an dernier dans l'élevage de porcs, plus de 30% chez les producteurs de lait. Et malgré la demande, le prix du lait continue de baisser. Témoignez au 32-10, nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Les voyous de la police doivent être sanctionnés. Déclaration de Christian Estrosi ce matin sur RTL après l'agression et le viol dont a été victime Théo lors de son arrestation à Aulnay-sous-Bois. Nous verrons concrètement ce qu'il risque. Dans RTL Midi aussi, la charge de François Bayrou contre François Fillon, il lui reproche d'être, je cite, sous l'influence des puissances d'argent. Le premier règlement de compte de l'année à Marseille, c'est un homme très connu dans le milieu du banditisme qui a été abattu à Allo. Un homme infidèle reproche son divorce à Uber. Il réclame pas moins de 45 millions d'euros à l'entreprise de chauffeurs pour un bug informatique. Si vous avez l'œil dans le rétroviseur et que vous aimez les vieilles carrosseries, le salon Rétromobile ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Et ce qui se vend le mieux, ce n'est pas une bonne vieille traction avant, non, c'est une très vintage R5 ou une 205 GTI. Collectionneurs, nous vous attendons au 32-10. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Vous collectionnez les nuages aujourd'hui.
Oui, exactement, encore beaucoup de nuages, mais ils ne sont pas très organisés. Mais enfin, globalement, ce sont quand même eux qui devraient dominer aujourd'hui dans la plupart des régions. Alors, si je dois faire quelques nuances, on doit avoir un peu plus d'éclaircies près de l'Atlantique, entre la Bretagne, la Normandie, le Val-de-Loire ou encore le nord de l'Aquitaine. C'est le cas en ce moment, mais il y aura quand même quelques passages nuageux, voire quelques averses, des éclaircies également autour du golfe du Lion avec l'alette du Mistral et de la Tramontane qui devraient atteindre les 90 voire 100 km/h. Ailleurs, donc des passages nuageux, de rares éclaircies et puis des averses plus fréquentes dans l'est. Alors, averses sous forme de pluie ou de neige en montagne dès 600 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées. Puis des averses également entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, ça baisse 4 à 6 degrés seulement dans le nord-est, 8 à 9, 10 degrés dans les autres régions. Vous voyez qu'on reste bloqué cette fois-ci sous les 10 degrés et 11 à 14 degrés quand même près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. François Bayrou qui explique aujourd'hui qu'il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités. Doit-il se présenter, François Bayrou, à l'élection présidentielle? Pour l'instant, vous êtes 24% à répondre oui, 72% à nous dire non.
RTL Midi. Les petits et grands gâchis de la République, la Cour des comptes remet donc aujourd'hui son rapport annuel. Nous y reviendrons en détail avec son premier président Didier Migaud dans une vingtaine de minutes, qui sera l'invité d'RTL Midi. Mais sans attendre, gros plan sur les buralistes. L'État, qui mène une politique de lutte contre le tabagisme, tente de compenser en soutenant cette activité. Ça coûte environ 300 millions d'euros par an depuis 13 ans, pour un résultat que la Cour juge contestable, Éric Vanier.
Oui, la Cour des comptes ici part d'un constat, contrairement à ce que disent les organisations professionnelles du secteur. Le chiffre d'affaires des débits de tabac a continué d'augmenter ces dernières années. La profession n'est pas sinistrée, sauf localement quand il s'agit de bureaux de tabac frontaliers. Les magistrats estiment donc que les aides accordées par l'État aux buralistes pour compenser la baisse de la consommation de cigarettes, eh bien que ces aides ne sont pas justifiées, en tout cas pas assez ciblées et contrôlées. Elles ne servent qu'à maintenir en place le réseau de débits de tabac existant, voire même à le développer, alors que l'objectif devrait être de le réduire par rapport aux soucis de santé publique affichés par le gouvernement. La Cour des comptes préconise donc de diminuer ces aides financières et de les réorienter vers la transformation, la reconversion des bureaux de tabac sur d'autres activités.
Explication d'Éric Vanier pour RTL. Autre gabegie, l'écotaxe poids lourd qui n'a jamais vu le jour après la fronde des bonnets rouges. Il a fallu abandonner les portiques et indemniser la société Ecomove qui devait collecter cette taxe. Un gâchis, dit la Cour des comptes, à 1 milliard d'euros. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, renvoie ce matin la responsabilité au gouvernement Fillon.
Ce dispositif qui a été mis en place, quand même, je le rappelle, par le précédent gouvernement Fillon, lors du quinquennat précédent, était en effet un dispositif totalement bancal, puisqu'il sous-traitait à une entreprise privée italienne une partie des recettes payées par les consommateurs. Donc c'est vrai qu'il a fallu, dans des conditions difficiles, remettre en cause ce dispositif qui était très coûteux pour le contribuable et pour l'État. Donc la Cour des comptes dit des choses justes, et par rapport à ça, le gouvernement a fait au mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est parti sur de nouvelles bases. Et en tout cas, ce dispositif qui, au bout du compte, aurait, en 10 ans, coûté 2 milliards d'euros aux contribuables, aujourd'hui, est stoppé.
Ségolène Royal avec Agathe Landais. Plus globalement, la Cour considère que le gouvernement ne pourra pas tenir son objectif de réduction du déficit public à 2,7% du PIB en 2017. Les hypothèses de recettes sont trop optimistes et les économies ne pourront pas atteindre les montants attendus. Si vous avez des exemples près de chez vous de gaspillage d'argent public, vous pouvez témoigner 32-10. Le pic de la grippe est passé cette fois. D'après Santé publique France, il y a eu 1 800 000 consultations depuis le début de l'épidémie en décembre. La surmortalité est estimée, toutes causes confondues, à un peu plus de 14 000 personnes. Les régions les plus touchées encore par la grippe sont les Hauts-de-France, le Centre et les Pays de la Loire.
L'appel de Théo a été entendu. Le jeune homme de son lit d'hôpital a imploré les jeunes d'Aulnay-sous-Bois de ne pas faire la guerre. Ce sont ses mots. La nuit a été plus calme. La tension s'est déportée vers d'autres communes de Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a réclamé hier la plus grande fermeté contre les 4 policiers qui ont participé à cette interpellation violente, dont l'un serait coupable de viol. C'est aussi le discours qu'a tenu ce matin sur RTL Christian Estrosi, le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Je dis que quelques voyous de la police qui seraient à l'origine de cette tragédie doivent être sanctionnés extrêmement lourdement. Un viol, c'est un crime, c'est un acte criminel et 3 individus n'ont pas le droit de salir toute la police française. Merci.
Christian Estrosi avec Elisabeth Martichoux, la plus grande fermeté donc. Aujourd'hui, Olivier Bois, les 4 hommes sont mis en examen et mis à pied. Quelle va être la suite?
Oui, les 4 sont suspendus, décision du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, qui a été même plus sévère en la matière que la juge d'instruction, puisqu'ils n'étaient pas tous suspendus au départ. Évidemment, depuis ce week-end, ils ne vont donc plus au commissariat d'Aulnay-sous-Bois. Le principal mis en cause, celui qui est accusé de viol, n'a plus le droit de venir même en Seine-Saint-Denis. Alors l'enquête va maintenant se poursuivre. La juge va devoir les réentendre pour connaître et pour entendre à nouveau leur version. On sait que le principal mis en cause, on le révélait hier sur RTL, continue de dire qu'il a certes donné des coups de matraque par derrière, mais sans intention de viol. Il plaide donc l'accident, même si la version a semblé fantaisiste à la juge, considérant la blessure et considérant qu'il y a eu une pénétration de 10 cm. Il faut maintenant savoir ce que vont faire les autres policiers. Ils sont moins gravement mis en cause. Vont-ils rester solidaires de leurs collègues qui avaient la matraque au risque de plonger avec lui? C'est l'une des questions importantes qui se posent maintenant dans cette enquête.
Olivier Bois, merci. Par ailleurs, 17 jeunes, dont 11 mineurs, seront présentés cet après-midi en comparution immédiate pour les dégradations de ces derniers jours à Aulnay-sous-Bois.
François Bayrou pilonne François Fillon et se rapproche de plus en plus d'une candidature. « Je prendrai mes responsabilités », a-t-il redit ce matin. Le président du Modem a aussi porté cette accusation sur France 2.
« Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. »
Les puissances de l'argent. À quoi fait-il allusion, Thomas Proutot ?
Eh bien, François Bayrou vise directement les relations d'affaires de François Fillon. Vous savez que l'ancien Premier ministre a créé une société de conseil, juste après sa sortie de Matignon, en mai 2012. Or, parmi ses principaux clients, on trouve la société AXA. C'est François Fillon lui-même qui l'a révélé lundi soir. L'assureur lui a versé 200 000 euros de rémunération entre 2012 et 2014 pour travailler sur une directive européenne. Or, Henri de Castres, l'ancien président d'AXA, affiche désormais son soutien à François Fillon, intérêt croisé. Autre client visé, René Ricol, à la tête d'une importante société d'audit pour les entreprises. Il salarie depuis 2012 le candidat des Républicains comme senior advisor, comme on dit. Or, René Ricol a été commissaire général à l'investissement entre 2010 et 2012, quand François Fillon était Premier ministre. Là encore, politique et affaires se font de l'œil. Dernier client, enfin, que l'on peut citer, Fimalac, la société de Marc Ladret de la Charrière. Le milliardaire est décidément proche de la famille Fillon. Fillon, puisque c'est lui qui a procuré à Pénélope son contrat contesté à la Revue des Demandes dont il est propriétaire.
Thomas Proutot, quant aux révélations du Canard enchaîné, c'est 45 000 euros d'indemnité de licenciement qu'a touché Pénélope Fillon à la fin de ses contrats d'assistante parlementaire. Eh bien, nous avons refait les calculs ici à RTL avec l'Assemblée nationale et ça correspond exactement aux indemnités légales que touche tout collaborateur à la fin de son contrat. François Fillon multiplie les déplacements sur le terrain. La campagne est repartie pour renouer avec les Français. Il sera tout à l'heure à Juvisy-sur-Orge. Et pendant ce temps, François Hollande, lui, fête le nouvel an chinois. Réception à l'Élysée en fin d'après-midi. C'est l'année du coq de feu. Un animal, paraît-il, plein de surprises, ce qui laisse présager des temps mouvementés.
Une pause et dans un instant, le désarroi des éleveurs.
RTL Midi.
Christelle Robière, Julien Cellier.
Les agriculteurs en faillite après deux années de crise. Les redressements ou mises en liquidation des exploitations ont augmenté de 4%. Mais si l'on y regarde de plus près, c'est catastrophique pour les éleveurs de porc. Plus 83% est très grave pour la production laitière, plus 30%. Ce matin, des producteurs de lait ont choisi de se rassembler à Ancenis, en Loire-Atlantique, devant une coopérative du groupe Terena. Ils redoutent une nouvelle baisse du prix du lait, Patrice Gabart.
Oui, les mois passent, mais c'est encore la même peur du lendemain. Et la colère gronde toujours dans les salles de traite. Philippe, producteur laitier à Cholet.
Depuis bientôt deux ans, c'est une crise qui dure et qui est très grave. Aujourd'hui, on travaille en dessous de nos prix de revient et on ne voit pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, le lait permet de payer les charges et c'est tout, point. Ce n'est pas normal. On se lève tous les matins pour travailler, pour s'occuper de nos animaux et derrière, on n'a rien. Il n'y a pas d'autre métier en France qui pourrait tolérer un truc pareil. J'ai 50 ans passé aujourd'hui, je stresse plus que quand je me suis installé, qu'il y a 10 ans, 15 ans, ce n'est pas normal.
Alors ce midi, ils sont une petite centaine d'agriculteurs à s'être rassemblés devant leur coopérative laitière à Ancenis pour dénoncer une nouvelle baisse pour les deux mois à venir, 305 euros la tonne en février et 300 en mars, alors que tous les indicateurs sont au vert. Frédéric Vincent, responsable lait de la FDSEA du Maine-et-Loire.
Tous les marchés, qu'ils soient européens ou internationaux, sont à la hausse. Aussi bien sur la poudre de lait, sur le beurre, sur les fromages, tout est à la hausse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de répercussion sur le prix payé aux producteurs. Donc ça veut dire qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches. On est dans la compréhension.
La commission laitière se réunit ici cet après-midi pour examiner le prix du lait, sans beaucoup d'espoir chez les agriculteurs.
Reportage Patrice Gabara, Ancenis. Vous êtes éleveur, producteur de lait, agriculteur, témoignez de vos difficultés au 3210. Vous pourrez dialoguer à 13h avec Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne.
Un premier règlement de compte de l'année à Marseille. Un homme de 34 ans tué à l'arme automatique dans une rue d'Allo au pied d'une résidence hier soir. Trois hommes ont déjà été arrêtés ce matin en train de pénétrer à son domicile et on en sait plus sur la victime, Étienne Baudu, un gros bonnet du banditisme.
Oui, Mehdi Remania, 34 ans, l'aîné d'une famille décimée par les règlements de compte ces dernières années. Ses deux frères ont été tués en 2012 et 2016. Mehdi Remania était sorti de prison en mai dernier. Se sachant menacé, il était parti se mettre au vert en Espagne, puis il était revenu reprendre ses affaires sur Marseille. On est là sur du gros voyou, selon une source proche de l'enquête, sur fond de trafic de drogue. Il en importait de grosses quantités. Il gérait, entre guillemets, plusieurs plans stupes dans les quartiers nord. Et bien entendu, il devait aiguiser des appétit des autres clans. Il en a d'ailleurs payé de sa vie hier soir. Une affaire qui s'est prolongée dans la nuit. Dès qu'ils connaissent l'identité de la victime, les policiers de la PJ se rendent immédiatement à proximité de son domicile, à Marignane. Et là, bingo, ils voient pénétrer dans l'appartement trois hommes, trois proches en fait de Mehdi Remania. Ils viennent nettoyer les lieux. Cherchent-ils des armes ou de la drogue ou bien veulent-ils effacer des indices qui pourraient les impliquer? Quand ils quittent les lieux, les policiers les interpellent, mais ils sortent leurs armes. Les hommes de la PJ ripostent et les blessent aux jambes. Ils sont ce matin en garde à vue dans les locaux de l'évêché.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Un divorce à 45 millions d'euros, ce n'est pas à la fin d'une belle histoire d'amour d'un couple millionnaire, c'est l'indemnité que réclame un client d'Uber à l'entreprise de chauffeurs privés devant la justice pour un bug sur son application. Un bug, Jacques Seret, qui lui a donc coûté son mariage.
Oui, cet homme d'affaires de la Côte d'Azur en veut beaucoup à l'application. Selon lui, Uber a permis à son épouse d'être informée de ses différentes allées et venues. En fait, sa femme recevait sur son smartphone personnel les push, les petites alertes qui préviennent de l'arrivée du chauffeur, alors que ces notifications étaient donc destinées à son mari. Ses déplacements, semble-t-il, inhabituels ont éveillé chez elle les soupçons d'infidélité qu'elle lui portait. Sauf que voilà, elle n'aurait jamais dû savoir, selon l'homme d'affaires, faire. Il explique que oui, il a bien un jour commandé une voiture depuis le mobile de son épouse, mais c'était avec ses identifiants, il s'était déconnecté. Ses aventures présumées auraient dû rester dans le secret. C'était sans compter sur les aléas des nouvelles technologies, puisqu'un iPhone, même déconnecté d'un compte Uber, reçoit toujours les notifications. Un bug qui serait propre aux anciennes versions de l'application. Moralité, lorsque l'on est infidèle, mieux vaut mettre à jour son téléphone portable.
Jacques Serret. Madonna vient d'adopter deux nouveaux enfants au Malawi, des jumelles de 4 ans, comme elle l'avait déjà fait à deux reprises. La justice a considéré que ces 58 ans n'étaient pas un obstacle à l'adoption. Mais certaines organisations au Malawi critiquent cette décision. Elles considèrent qu'elle devrait surtout aider les familles démunies. Madonna a créé une fondation il y a plus de 10 ans pour s'occuper des orphelins dans ce pays et aussi pour y construire des hôpitaux.
C'est les vacances pour les écoliers de la région parisienne, les petits Toulousains, les petits Montpelliérains. Parfois, les parents se mettent en mode off et les grands-parents se retrouvent à plein temps pour garder les petits-enfants. Exemple à Montpellier, Aline Thibal.
Comme beaucoup de parents qui travaillent, Laurence a eu recours au système ED pour occuper Jeanne, 9 ans.
Ben, j'ai appelé ma mère, il faut trouver une solution pour occuper l'enfant.
Et malgré le temps gris pour l'enfant et la mamie, le programme est chargé.
On va à la piscine, on va au cinéma et puis on fait les magasins.
Bien sûr, elle me prépare tout le temps à manger hein, parce que faut pas que je meure non plus. Alors on fait de la peinture, des boîtes et tout, mais c'est bien.
Pas de trêve non plus pour papy Robert. Narjan, 5 ans, ne descotche pas du toboggan.
Eh oui. De corvée pour garder le petit-fils. Puis après, il a sa petite cabane hein, qu'on a fait.
Et elle est comment ta cabane?
Tout en bois.
Dans un
arbre avec des escaliers. Après, je vais y aller voir Lego Batman.
Les vacances avec papy et mamie, c'est comment?
Génial.
D'autant que demain, pour Narjan, ce sera foot sur la plage et crêpe à volonté.
Aline Thibal à Montpellier pour RTL. Corvée, comme disait ce grand-père.
Corvée, il a quand même dit ça.
Oh, petit bonheur, pourquoi pas. Les papys, les mamous sont les bienvenus au 32-10.
Une pause dans un instant. Retour sur le gaspillage d'argent public. Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes et l'invité d'RTL Midi.
RTL Midi.
Christelle Robière, Julien Cellier.
Invité de RTL Midi, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Bonjour.
Bonjour.
Vous dévoilez aujourd'hui votre traditionnel rapport annuel sur la gestion des politiques publiques. 1300 pages avec toujours cet objectif, lutter contre le gaspillage des ressources de l'État. Avant d'entrer dans le détail de votre rapport, un point plus global. Vous estimez ce matin que le gouvernement a été trop optimiste, qu'il n'arrivera pas à remplir son engagement, ramener le déficit à 2,7% du PIB cette année. Ce sera très difficile, dites-vous.
Oui. Nous avons des interrogations effectivement sur cet objectif de 2,7% de 70% de déficit. D'ailleurs, on constate que peu reprennent ce chiffre à part le gouvernement et le ministre de l'économie et des finances. La commission parle de 2,9, de 3, le conseil constitutionnel aussi a pris pour référence 3. Le 2,7 nous apparaît, pour reprendre l'expression du Haut Conseil des finances publiques, improbable. Il y a des hypothèses qui ont été calculées de façon optimiste sur les recettes et puis sur la dépense. On voit que c'est compliqué à respecter les objectifs. D'autant que l'objectif de réduction de déficit sur 2017 est beaucoup plus ambitieux qu'en 2016. En 2016, nous avons une réduction du déficit de vraisemblablement de 0,2 points de produit intérieur brut. L'objectif en 2017, c'est 0,6 points. Donc c'est le triple.
Et on ne sait pas par qui il sera porté, justement, cet objectif. Alors, dans le détail, Didier Migaud, maintenant, un gros point noir, l'abandon de l'écotaxe, grand projet du Grenelle de l'environnement 2008 pour financer nos infrastructures de transport et taxer les poids lourds. Le dispositif a été abandonné. Vous chiffrez cet abandon à près d'1 milliard d'euros d'indemnisation. Vous employez un mot fort, gâchis. Est-ce que, selon vous, c'est le plus gros gâchis de ce quinquennat ?
Oh, c'est là, en tout cas, c'est celui que nous identifions et sur lequel nous avons travaillé. Ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, c'était un projet ambitieux, voté à la cause d'unanimité, unanimité du Parlement. Le public qui devait être concerné, c'était les poids lourds et pour partie les poids lourds étrangers. l'abandon de ce dispositif est effectivement coûteux. C'est de l'ordre de 1 milliard d'euros au minimum, puisqu'il y a encore un certain nombre de pertes de recettes possibles compte tenu de contentieux encore pendants. Et puis sur la recette qui a été trouvée en compensation, elle concerne en fait peu les transporteurs routiers, pratiquement pas les transporteurs routiers internationaux, mais c'est essentiellement l'automobiliste.
La hausse de la taxe sur les carburants.
C'est une compensation financière qui est aux antipodes des objectifs qui étaient affichés pour la création de ce dispositif.
Mais ce matin, la ministre Ségolène Royal a renvoyé la faute sur le quinquennat précédent, sur le gouvernement de François Fillon, en expliquant qu'au départ, en 2008, le montage était déjà très compliqué avec une société privée qui collecte de l'argent. Est-ce que c'est ce montage qui pose problème et qui finalement fait que l'abandon est extrêmement coûteux ?
C'est l'abandon qui est coûteux. Alors après, sur les modalités, la Cour des comptes n'est pas rentrée dans ce raisonnement. Peut-être que les modalités de mise en œuvre pouvaient être plus compliquées que d'autres dispositifs qui ont été mis en place dans d'autres pays. Mais en tout cas, ce que nous constatons, c'est que l'abandon de ce dispositif représente de l'ordre de 1 milliard d'euros. Et là, c'est un coup net pour l'État.
Autre point noir, Didier Migaud, peut-être plus inattendu, les aides aux buralistes. 92 millions d'euros en 2015. Les commerçants expliquent, eux, qu'ils ne s'en sortent pas face à la contrebande, face au paquet neutre, face à la hausse des prix. Et pourtant, dans votre rapport à la Cour des comptes, vous dites qu'ils gagnent de mieux en mieux leur vie.
Mais écoutez, ce sont les chiffres et la réalité des chiffres. On constate que le chiffre d'affaires moyen lié à la vente du tabac par buraliste augmente et que les revenus tirés de la vente des cigarettes augmentent également.
Donc ils crient avant d'avoir mal, les débitants de tabac ?
Oui, pour partie. Ce que nous regrettons, c'est qu'il y ait des dispositifs généraux qui s'adressent à tout le monde, quelle que soit la situation. Qu'il puisse y avoir un soutien aux buralistes dans des territoires fragilisés.
Dans les zones frontalières, par exemple.
Dans des situations fragilisées. Oui, cela peut se concevoir. Mais avoir des dispositifs complètement généraux, nous pensons que ce sont des politiques inadaptées.
Vous dites que ces dispositifs ne sont pas ciblés. Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, c'est que vous aidez autant celui qui tire un bon revenu que celui qui est en difficulté. Vous n'avez pas besoin d'aider celui qui se porte bien. Vous n'êtes pas obligé d'aider celui qui se porte bien.
Autre carton rouge aussi cette année, le stationnement. Il n'y a pas assez de contrôle dans les villes.
Il n'y a pas toujours le contrôle suffisant comme sur la formation professionnelle qui représente des sommes considérables, 12 milliards pour la formation continue des salariés avec pratiquement pas de contrôle. Sur le stationnement, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas toujours cohérent. Vous avez d'un côté le maire qui est responsable de la police du stationnement et de l'autre l'intercommunalité qui est responsable de la politique des déplacements. Donc voilà, nous appelons à une clarification des compétences pour que justement ce qui est mis en place soit le plus cohérent et le plus efficace possible.
Autre point très intéressant, notamment en cette période d'état d'urgence, vous estimez que nos forces de l'ordre sont au bord de la saturation, que sont toutes sur le terrain et qu'il n'y a plus personne pour intervenir en cas d'urgence, c'est bien ça ?
Il y en a encore, parce
que c'est limité.
Des redéploiements qui... Oui, c'est limité, parce que nous constatons qu'il y a eu une réduction des effectifs, d'ailleurs, entre 2010 et 2015, et puis parallèlement, une intensification des missions qui sont confiées à ces forces mobiles. Donc on est dans un effet de ciseaux. Alors il y a des mesures qui ont commencé à être prises. Il faut vraisemblablement revoir un peu le contenu des missions de ces forces mobiles disponibles possible. Et puis veiller à une meilleure, un meilleur équilibre au niveau de l'implantation territoriale de ces forces mobiles. Région parisienne dispose d'insuffisamment de forces mobiles.
Est-ce qu'il faudrait en finir, Didier Migaud, avec les gardes statiques devant les bâtiments sensibles, par exemple ?
Oui, c'est pas obligatoirement. Alors, ça a commencé. Vous avez un certain nombre de mesures qui ont été prises pour que justement ces forces mobiles soient davantage remises sur le terrain et soient rendues plus disponibles.
Votre rapport, une dernière question, nous emmène aussi en Corse pour pointer la gestion des hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia. Déficit de près de 17 millions pour l'un, de 7 millions pour l'autre. Comment vous expliquez ces chiffres ?
Par le fait que y a pas de volonté sur place suffisante pour redresser la situation. C'est-à-dire que l'État dit toujours vous accorde des subventions pour redresser la situation. En contrepartie, il faudrait que vous fassiez tel ou tel effort, notamment sur la maîtrise des dépenses de personnel. Et on s'aperçoit que les contreparties ne sont pas là. Bon, et qu'il y a des embauches qui ne correspondent pas toujours aux besoins nécessaires. Donc voilà, la situation ne peut pas se redresser si vous ne prenez pas les mesures adéquates pour redresser justement cette situation.
Merci beaucoup Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, d'avoir été aujourd'hui l'invité de RTL Midi. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Je vous en prie.
RTL Midi.
La météo, Louis Baudin, avec un ciel très changeant aujourd'hui. Un véritable casse-tête pour un météorologue. C'est pas votre jour.
Non, c'est pas notre jour. Non, c'est vrai qu'on préfère les situations claires, comme hier où on avait une belle perturbation qui traversait la France. Donc là, c'était facile à suivre et à prévoir. Mais là, on est effectivement dans un ciel plus changeant. Alors, c'est vrai qu'on a des éclaircies quand même un peu plus belles près de l'Atlantique. Mais je vois que les nuages reviennent. Donc, on aura aussi un ciel nuageux cet après-midi. Tout cela s'accompagne de quelques averses, mais il n'y en a pas partout. C'est même limité en ce moment, près des Pyrénées, dans le sud-est ou encore dans le nord-est. Mais en cours d'après-midi, ce risque existera quasiment partout. Quand je dis ça, donc j'ai pas réglé votre problème, je ne peux pas vous dire à quelle heure il y aura une averse et si vous passerez au travers ou pas, mais ce risque existera partout. Les éclaircies seront quand même un peu plus belles près de l'Atlantique et autour du golfe du Lion avec l'aide du Mistral et de la Tramontagne qui atteindront les 90 voire 100 km/h. Puis à l'inverse, les averses devraient être un peu plus fréquentes dans les régions de l'Est, averses sous forme de pluie ou de neige en montagne, quelques averses possibles dès 600 ou 700 mètres sur tous les massifs. Puis côté température, bon là on est un peu plus sûr de nous, ça baisse 4 à 6 degrés seulement dans le nord-est, on sera entre 6, 7 voire 8 degrés dans les autres régions, donc on repasse sous les 10 degrés et un peu plus de 10 degrés quand même près de la Méditerranée.
Côté température, justement, on se prépare à repasser en dessous des normales.
Exactement. Alors, c'est pas le grand froid qu'on a connu ces dernières semaines, mais c'est quand même du froid qui va revenir. Alors, demain sera un peu une journée charnière avec déjà le retour des gelées dans le nord-est. On retrouvera un temps sec partout, mais avec beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages bas qui auront du mal à se dissiper l'après-midi, sauf près de l'Atlantique et dans l'extrême sud. Et puis, vendredi, samedi et dimanche, on va avoir surtout un temps très sec, mais très froid. Les gelées seront fréquentes et généralisées quasiment dans la moitié nord. Pas de grosses températures négatives, mais des gelées. Puis, l'après-midi, des températures, vous l'avez dit, en dessous des moyennes de saison. Entre 2 et 5, 6 degrés seulement dans la moitié nord et entre 8 et 12 degrés dans le sud. À surveiller dans le sud, justement, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Là, on aura un petit risque d'averse un peu plus marqué en début de semaine dans ces régions du sud. Mais ensuite, eh bien, l'anticyclone qui semble s'installer pour le milieu de semaine.
Merci Louis.
RTL 13h.
RTL Midi.
Le 13h, Christelle Rebière, Julien Cellier.
Et vous aurez la parole dans 5 minutes au 32-10. Nous comptons sur vous si vous êtes agriculteur. Le nombre d'exploitations en faillite a progressé de 4% l'an dernier. L'année a été particulièrement difficile pour les éleveurs. Un bond de 83% des défaillances chez les éleveurs de porc, de 30% pour les producteurs laitiers. Le ministère de l'Agriculture a multiplié les aides, a allégé les charges, mais cela ne suffit visiblement pas. Nous attendons vos témoignages au 32-10. Vous allez pouvoir débattre, échanger, dialoguer avec Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne.
François Bayrou pilonne François Fillon, le président du Modem qui continue de faire durer le suspense sur son éventuelle candidature, accuse le candidat Les Républicains d'être, je cite, « sous l'influence des puissances d'argent, des multinationales se payent des politiques », dit-il, « qui les aident à ouvrir les portes ». Hervé Mariton, des Républicains, préfère ironiser.
François Bayrou, il faut toujours faire le tri. Parfois, il dit des choses intéressantes, et puis parfois, il lui arrive de prendre des directions un peu curieuses. Là, je pense qu'il se fourvoie. Cette analyse, cet énoncé n'est pas digne du François Bayrou qui tient des propos éclairés et justifiés. François Fillon est, je pense, et c'est ma conviction, quelqu'un qui est totalement en responsabilité et investi de ce que sont les intérêts de notre pays. C'est tout de même plutôt pas mal qu'un futur président de la République, j'espère, ait une certaine compréhension de l'économie. Il est plutôt bien qu'il y ait des allers-retours de questions qui sont posées, de réponses qui sont données et au fond une implication dans la vie de l'économie.
Hervé Mariton avec Julien Fautra pour RTL. François Bayrou doit-il se présenter à l'élection présidentielle? C'est la question du jour sur RTL.fr. Nous attendons aussi vos réactions au 3210 sur RTL.fr. Vous êtes 24% à nous dire oui pour l'instant.
Plusieurs élus, les Républicains, réclament des sanctions exemplaires contre les policiers qui ont procédé à l'arrestation de Théo. Ils sont mis en examen pour violence volontaire et l'un d'entre eux pour viol. La nuit a été calme à Aulnay-sous-Bois après l'appel lancé par le jeune homme. Cet après-midi, 17 jeunes, dont 11 mineurs, seront présentés à la justice en comparution immédiate pour les dégradations de ces derniers jours. Le pic de la grippe est passé. D'après Santé publique France, il y a eu 1,8 million de consultations depuis le début de l'épidémie en décembre. La surmortalité est estimée, toutes causes confondues, à un peu plus de 14 000 personnes. Les régions les plus touchées par la grippe en ce moment sont les Hauts-de-France, le Centre et les Pays de la Loire. La Cadillac 1953 qu'avait acheté Johnny Hallyday sera le clou de la vente aux enchères vendredi au Salon Rétromobile. Un salon qui s'ouvre aujourd'hui porte de Versailles. Le marché des voitures de collection avait flambé il y a quelques années. Il était encore en progression de 9% l'an dernier. Et ce qui marche le mieux en ce moment, Christophe Bourou, ce sont les voitures stars des années 80.
Et oui, sortez les Ray-Ban Aviator, le fauteuil en Sky et la radio cassette. Bienvenue chez les Young Timers. Alors ce terme concerne les voitures qui sont grosso modo aux portes de la collection, produites entre 75 et 2000 et dont la cote ne cesse de grimper. Pourquoi ? D'abord parce que les véhicules plus anciens sont hors de prix et aussi parce qu'on achète les voitures qui nous faisaient fantasmer jeunes. Voitures que l'on peut arriver à trouver un tarif encore raisonnable, même si certains modèles s'enflamment, selon François-Xavier Basse, le directeur de la revue Young Timers.
Une Renault 14 aujourd'hui, ça vaut par exemple autour de 2 000 €. Parmi les plus chères, on va dire que la française Young Timers la plus courue, c'est la Renault 5 Turbo. Aujourd'hui, une Renault 5 Turbo de première génération, c'est-à-dire avec le premier tableau de bord et le premier volant, ça peut valoir jusqu'à 100 000 €.
100 000 € pour une R5 Turbo. Autre star très recherchée, il y a la 205 GTI, mais aussi la Renault Fuego ou encore plus récemment
l'Avantime.
Mais oui. L'Avantime, ça prend de la valeur. Avantage, elle se conduit facilement tous les jours, avec peu d'électronique, donc facile à réparer. Vous pouvez par exemple changer une ampoule seule, et ça, croyez-moi, avec une voiture actuelle, c'est un exploit.
Merci Christophe Bourou. Ouais,
c'est klaxon de la R5.
Bon, si vous êtes collectionneur, appelez-nous, on en parle tous ensemble à 13h30. Nous serons avec François Melsion, le directeur justement du salon Rétromobile, qui s'ouvre aujourd'hui porte de Versailles à Paris.
Allez, une pause, et dans un instant, le premier invité des auditeurs ont la parole pour là aussi dialoguer avec vous au 3210, Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne. On va revenir avec lui, avec vous sur cette hausse des liquidations et des redressements judiciaires chez les agriculteurs.